Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous voici avec une nouvelle émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Dénoncer les abus de pouvoir et les injustices, c'est un devoir, si ce n'est pas une obligation pour tous les citoyens. Donc il est de votre devoir premier d'être conscient que dénoncer les abus est le premier pas à faire dans votre implication sociale. Puis pourquoi pas de continuer d'agir dans ce sens en guise de corriger les situations critiques, changer les formes d'autorité abusives et inacceptables dans une société comme la nôtre. Les abus de pouvoir sont nombreux et ils sont commis à chaque jour, pour ne pas dire à chaque minute. Et malheureusement, votre silence, votre crainte encourage les auteurs de continuer dans leur aveuglement. Il revient uniquement à vous et à la personne. Et à personne d'autre que vous, chers citoyens, chères citoyennes, d'apporter des changements de taille. La société vous appartient et chaque geste bénéfique de votre part apparaîtra grandiose à condition que vous croyiez à l'utilité de votre geste, de votre parole. Nos droits individuels et collectifs sont bafoués à plusieurs endroits. Voilà pourquoi nous devons tous rejoindre nos forces afin de démasquer les auteurs qui profitent de notre silence, de notre inaction et d'abuser de plus en plus de leur autorité. Au nom du pouvoir, ils déforment illégalement l'image de notre société sur tous les plans et par nos actions réfléchies et notre dévouement à cette société qui est la nôtre, nous souhaitons rendre cette image la plus exemplaire possible. Nous croyons encore à la réalisation de tels projets. Voilà pourquoi le mouvement Action Justice vous encourage fortement de s'exprimer publiquement. Témoin, vous êtes ou victime d'un abus de pouvoir, d'une injustice, vous trouvez sur nos ondes une voix et un appui pour vos démarches. Prenez votre téléphone et appelez-nous le 514-273-4302, 514-273-4302, ou bien vous pouvez toujours nous écrire à infomage-québec.com. Avec vous ce matin au micro, Hadj Zitouni, un militant du MAJ, un mouvement en défense des droits de la personne face au système judiciaire. Cette émission sera consacrée à la mémoire de Mohamed Anas Binis. Âgé de 25 ans, ce jeune Québécois d'origine marocaine était abattu par Jonathan Roy, un policier de la SPVM, le 1er décembre 2005 à 7h20 à Côte-des-Neiges. Nous allons réouvrir ce dossier pour deux raisons principales. Donc la première, c'est que les circonstances entourant la mort de ce jeune demeurent toujours nébuleuses et que la famille et la coalition Justice pour NS, qui contient 28 associations, continuent à réclamer à nos jours la tenue d'une enquête publique qui n'a pas encore eu lieu. Est fort possible qu'un juge de la Cour suprême va, dans les jours qui viennent, autoriser une telle enquête. Restez avec nous après notre thème musical. Vous allez comprendre pourquoi ça devient nécessaire et urgent après tant d'années qu'une telle enquête sera mise sur pied. Rebonjour chères auditrices, chers auditeurs. Réouvrir la plaie de cette tragédie qui a coûté la vie de Mohamed Anas Binis ce jour, ce jeune Québécois d'origine marocaine, est aussi douloureux pour la famille que pour nous. Ça nous rappelle que la lutte pour arrêter la brutalité policière est loin d'être terminée. Ça nous rappelle que chacun de nous est exposé à son tour et à n'importe quel moment à une telle bavure policière. Cette tragédie qui a porté avec elle, et je souligne gratuitement, une vie aussi jeune, nous rappelle d'autres victimes qui sont enterrées sans que la justice soit eu son dernier mot. L'histoire de Anas Binis va sûrement reprendre les manchettes de la presse écrite et parlée dans les jours qui viennent, puisque, comme je l'avais précisé, un juge de la Cour suprême va prononcer en dernière instance sur une telle enquête publique si elle aura lieu ou non. Sans oublier de vous informer que Jonathan Roy, ce policier de la SPVM qui a abattu Anas le 1er décembre 2005, était reconnu coupable cette année par le comité de déontologie policière du Québec pour avoir commis 5 infractions du code de déontologie en 2008 dans un autre dossier impliquant un jeune noir toujours dans le quartier Côte-des-Neiges. Jonathan Roy avait alors intimidé, accusé sans justification, utilisé la force sans raison, arrêté et détenu illégalement ce jeune noir dénommé Kenny Andrew Hopkinson. Le cas de Mohamed Anas Binis a été cité par le comité lors de cette décision. Voilà que le comportement de l'agent Roy, qui opère toujours à Côte-des-Neiges, commence finalement à soulever des soupçons sérieux. Et pourtant, ça débutait par un bref communiqué du gouvernement du Québec qui avait annoncé 11 mois après la mort de Hannes qu'aucune accusation criminelle ne sera déposée à la suite des décès de ce jeune. Selon le même communiqué, la preuve n'avait pas permis de conclure à la commission d'une infraction criminelle de la part du policier Jonathan Roy. Vous savez, ce genre d'enquêtes sont menées par un autre corps policier et la famille et la coalition Justice pour Hannes sont restés opposés fermement dès le départ au dépôt de deux principaux rapports qui ont conclu à la légitime défense du policier. La famille Hannes et la coalition ont toujours réclamé une enquête publique pour que la lumière soit faite sur cette mort jugée injuste. Et vous connaissez sûrement la devise de la fraternité policière, c'est celle de défendre et encourager les policiers à tort ou à raison. Pour eux, un policier a toujours raison et sa version est toujours la bonne. Pour cette raison, il faut investir sans retenue au calcul l'argent des contribuables pour défendre les policiers impliqués. La fraternité policière. Elle est où la fraternité des victimes? Résultat direct, la fraternité policière, comme d'habitude, s'était opposée en main de fer et a persisté pour qu'une telle enquête publique n'aura jamais lieu. Même si en juin 2008, le coroner en chef du Québec, Louise Nollet, avait annoncé qu'il avait ordonné la tenue d'une enquête publique du coroner sur la mort de Hannes, malgré que ceci ne soit pas une enquête complète et indépendante comme la coalition Justice pour Hannes demandait depuis sa formation en janvier 2007. Cette victoire était le résultat de la campagne de pression publique menée par les différents manifestants organisés par leur collectif Justice pour Hannes. Ces manifestations étaient toujours soutenues par plusieurs autres associations québécoises œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Qu'est-ce qui a passé pour que l'agent Jonathan Roy, ce policier de la SPVM, a ouvert le feu sur un jeune qui, pendant toute sa vie, n'a jamais eu de problème avec la police? Restez avec nous. Après cette pause musicale, nous allons vous donner la réponse. Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil sur cette triste histoire. Et avant d'aller sur la scène du crime, nous allons connaître qui est Hannes Bénis et qu'est-ce qui l'a amené plutôt d'être dans le mauvais moment et dans la mauvaise place. Selon l'enquête du mouvement Action Justice, Hannes est un jeune étudiant universitaire bien entouré de sa famille, une éducation sans reproche, sage, intelligent, paisible, aimé par celles et ceux qui le connaissaient, très poli, la plupart du temps souriant, il n'avait jamais eu de problème avec la police et enfin, si vous voulez, il n'avait pas le moindre signe de détresse dans sa vie. Au-delà de tout ça, Hannes était quelqu'un de croyant, donc il commençait ses journées avec une prière. Ce matin du 1er décembre 2005, il s'est réveillé comme d'habitude tôt le matin, plus précisément à l'aube, pour aller faire une prière dans une petite mosquée pas loin de chez lui, dans le quartier Côte des Neiges. Cette sorte de prière, selon la foi musulmane, prépare l'individu de débuter sa journée dans la paix et le respect de la vie. Alors que les jeunes de son âge sont ailleurs, loin et totalement absents à ce niveau de vie et de réflexion, Hannes était quelqu'un qui semblait avoir trouvé un équilibre à sa vie matérielle et spirituelle. Bref, tout disait que Hannes menait une petite vie simple et tranquille. Qu'est-ce qui était arrivé réellement pour que Hannes, quittant ce lieu de prière, vers 7h20, soit abattu par un policier de la SPVM, sans aucune raison ou motif raisonnable? D'abord, rappelez-vous que Hannes était abattu au plein milieu d'une opération impliquant le SPVM, la SQ, la GRC. L'opération était nommée Glory, visant un supposant réseau de fraudeurs algériens qui étaient soupçonnés par les autorités policières d'être liés au terrorisme international. Finalement, à la fin de cette opération, ils ont découvert un petit groupe de voyous qu'on peut rencontrer tous les jours dans nos quartiers. Il s'agit de quelques personnes majoritairement d'origine algérienne impliquées dans le vol et la fabrication de fausses cartes de crédit. Bref, c'était des fraudeurs qui n'avaient à leur tour aucun rapport avec le terrorisme local ou international. Une opération nommée Glory, plusieurs corps policiers impliqués, plan d'arrestation, alerte maximum, climat chaotique, pour quelques souris perdues dans un canal d'égout sans grande importance. La phobie était à son extrême degré pour nos agents de la sécurité publique et nos dirigeants. C'est vraiment insensé de croire que nos enquêteurs sont à ce niveau aussi bas qu'on peut l'imaginer. Une opération de cette rigueur devra être calculée au millimètre près, mais pas pour tomber sur une connerie. Bref, dans la cervelle de nos policiers ce matin du 1er décembre 2005, tout ce qui était arabe était suspect au premier plan. Porter une barbe, une djellaba avec le teint basané était plus que certain qu'il s'agissait d'un terroriste. C'est dans cette atmosphère que Anas, quittant son lieu de prière quotidien pour retourner chez lui, et qui se trouva obligé de traverser ce cirque honteux de nos policiers, il faut noter aussi que Anas n'avait aucun rapport, ni direct ni indirect, avec ce groupe de fraudeurs visés par l'opération Glory. On peut facilement imaginer cette traversée au milieu de cette scène semée de peur et d'illusions. Alors qu'Anas, qui portait une légère barbe, une djellaba traditionnelle du Maroc, puis, et plus fort que lui, la couleur basanée de sa peau. Donc il y avait aussi son silence et son calme après cette prière de l'aube qui a duré environ une quinzaine de minutes. D'après ces informations confirmées, comment expliquez-vous la version des policiers que Anas avait attaqué sans aucune raison ou motif apparent un policier avec un couteau de cuisine? Voilà ce qui révolte la famille, ce qui révolte la coalition Justice pour Anas, pour qu'une enquête publique soit ordonnée afin de mieux expliquer l'inexplicable. Chose certaine que Anas, une fois qu'il a quitté son lieu de prière, il est devenu, avec son habit et la couleur de sa peau, un potentiel suspect pour la force policière. La thèse du policier, comme quoi Anas aurait sauté sur un policier avec un couteau de cuisine, sans aucune raison, et l'aurait poignardé au cou et à la jambe, ce qui a conduit le pauvre policier à tirer les deux balles mortelles en légitime de défense. Maintenant, l'histoire du couteau, c'était la goutte qui a renversé le vase. Les gens qui connaissaient très bien Anas disaient que c'était quasiment impossible que ce jeune aurait porté un couteau ou toute autre arme. Il avait toute la difficulté de la terre de croire qu'Anas sortant de sa prière avec un couteau de cuisine en main. Donc il n'avait pas le profil de quelqu'un qui se promenait avec un couteau, et encore moins de sa sortie d'une salle de prière. Nous savons aussi que dans ce dossier, le policier en question aurait été soigné pour des blessures superficielles qui n'ont pas nécessité l'hospitalisation. Une source policière du SPVM chargée de l'enquête avait confirmé au père l'existence d'une vidéo qui aurait soi-disant filmé la scène. Un temps d'après, on lui annonce que les images de la vidéo seraient mauvaises et non exploitables. La famille continue à dénoncer le manque de transparence de l'enquête et l'absence de la communication avec les autorités policières. Et même admettant que la version policière soit possible, comment que autant de policiers n'ont pas pu maîtriser un jeune avec un couteau à la place de lui tirer deux balles mortelles? Les cas se répètent sans que personne ne puisse changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, plus de 4 ans et demi, la famille Bénis et le public ne savent toujours pas pourquoi Anas, qui était décrit comme une personne sensible et tranquille, a été tué par la police de l'SPVM. La famille d'Anas n'a reçu que du manque de respect et du mépris de la part des organisations du gouvernement. Tout nous amène à croire qu'une enquête publique complète et indépendante pourra sortir des éléments nouveaux dans ce dossier, et peut-être que la mort de Anas ne sera pas gratuite. Avec une pause, ou plutôt après une pause musicale, nous écoutons les témoignages de sa sœur, de la sœur de Anas, Khadija Bénis, une sœur jumelle. Ce passage est pris des sites Juste pour Anas.
C'est vraiment incroyable. Connaissant quel caractère il avait, mon frère, quelle personne généreuse il était, mon frère. Il n'avait jamais d'argent sur lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait, il le donnait. Soit en aidant quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Donc, quelqu'un qui va aider quelqu'un dans la rue comme ça, juste par bonté de cœur, par générosité pour son frère dans l'humanité, qui fasse un acte agressif, ça ne peut pas rentrer dans notre tête. C'est, C'est impossible. Et puis, avec tout ça, en plus, on nous arrive et puis on dit, ok, on va attendre, c'est possible qu'il y ait des choses qui se sont arrivées, je ne sais pas, peut-être il aurait été provoqué, je ne sais pas. Mais on s'est dit, ok, on va attendre, on va voir qu'est-ce que ça va donner, cette enquête. Il y a tellement de choses. Puis connaissant, je m'excuse, mais connaissant mon frère comment il était, on était convaincus que la version qu'on nous donnait, et puis au début on a donné plusieurs versions, mais la version qu'on nous donnait, que c'était bogus, là, que c'était pas de, ça ne faisait pas de sens. Et puis là, donc à cause de la politique ministérielle, le dossier a été transféré à la police de Québec et non la GRC, comme ça se fait d'habitude. Donc cette enquête a duré jusqu'au mois de janvier. Par la suite, ça a été transféré à un procureur à Chicoutimi, que lui, il a pris jusqu'au mois d'avril pour sortir un rapport. Donc pendant tout ce temps-là, on était en communication à savoir qu'est-ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on l'appelait pour savoir comment ça se fait que ça prenait autant de temps, et il nous assurait qu'il allait faire ça comme il faut et tout. Par contre, je veux dire, quand on fait une enquête sur quelqu'un, je pense qu'il faut essayer de connaître cette personne. Et puis dans le cas de cette enquête, il n'y a eu aucune volonté de savoir, soit de communiquer avec ses amis ou sa famille, ou essayer de savoir, essayer de donner un profil à cette personne. C'est quoi cette personne, comment elle était. Donc, pour nous, d'essayer de comprendre qu'une enquête ait pris autant de temps pour arriver à aussi peu de conclusions, c'est quelque chose d'encore plus difficile à comprendre. Donc, la conclusion qui est arrivée au mois de novembre, juste pour pas faire que ça fasse un an, donc 11 ans après les faits, c'est une enquête qui une conclusion comme quoi que le policier a agi en légitime défense et qu'il n'y a aucune accusation ni qu'il va y avoir une enquête plus approfondie, aucune transparence bien sûr, ça c'est un élément qui est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête publique qui a été faite. Puis on a fait une manifestation géante qui a eu lieu le 7 janvier 2006, où on revendiquait qu'il y ait une enquête publique, où est-ce que l'adjoint du maire de Montréal avait envoyé une lettre au ministre de la Sécurité publique pour revendiquer que ça se passe de façon rapide. Donc là, on oublie ça, ça n'a pas été fait de façon rapide, et aussi de façon transparente. Et puis encore là, ça n'a pas été fait de façon transparente, loin de là. On nous refuse l'accès à plusieurs choses. Premièrement, il y a une vidéo qui aurait, ça se situe au coin de Kent, donc où est-ce qu'il y a le building de Bell. Et puis il y a deux vidéos, deux caméras de sécurité. Logiquement, il y a deux vidéos de caméras de sécurité qui auraient pris l'événement. Et puis on n'a pas accès à cette information-là. On n'a pas vu la vidéo, on n'a pas vu les photos du policier blessé présumément, on n'a pas vu le rapport. Donc le rapport qui a été fait par le coroner, qui s'appelle James Rondeau, le procureur, pardon, il ne nous a pas été remis. Donc il y a eu une rencontre qui a été faite avec mon père, ils l'ont rencontré, il y a eu des éléments qui ont été donnés à mon père de façon orale. Donc il n'y a pas eu de copie là, qui nous a été donnée. Donc qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on demande, avec la loi pour l'accès à l'information, on demande d'avoir accès au rapport. On reçoit une réponse négative sans plus d'explications. On a relancé, et on a même demandé que ça soit fait, qu'on nous donne quand même un rapport, même si qui est édité, même s'il y a des informations qui ne sont pas données, mais qu'on nous donne le rapport quand même, édité. Donc la réponse du ministre de la Sécurité publique, et puis c'est très clair dans sa lettre que c'était une réponse discrétionnelle, c'était à sa discrétion, il pouvait donner le rapport ou ne pas le donner, et puis je me demande pourquoi il a décidé de ne pas le donner. C'est quelque chose d'intérêt public, c'est pas pour la sécurité publique, là. C'est quelque chose qu'on a tous besoin de savoir. Et puis nous, au niveau de la famille, ça nous permet pas de continuer, ça nous permet pas de faire notre deuil puis passer à autre chose. C'est très très difficile pour nous de go on with our lives. C'est vraiment pas évident. Puis que la réponse soit comme ça, de façon discrétionnelle, non, on ne vous donne pas assez d'informations, parce que dans la loi, ça dit que il faut qu'il nous donne une copie certifiée. Et puis une copie certifiée, donc ce n'est pas une copie éditée, donc on vous refuse accès. C'est tellement minimaliste comme ça, là, comme réponse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis sur pied une coalition. Il y a notre site web que vous pouvez visiter qui est justicepouranas.ca, où est-ce que vous pouvez avoir un peu plus d'informations. Et puis, ce qu'on essaie de faire, c'est mobiliser le plus de gens possible pour gagner les gens à notre cause, qui est la cause de tout le monde, qui est la cause de ce quartier, de cette ville, de ce pays. Et puis, voilà, je vous remercie.
Vous êtes une future ou nouvelle maman, immigrante ou nouvelle arrivante au Québec. Autour du bébé, organisme à but non lucratif vous invite à participer au programme Action Diversité du ministère de l'Immigration et des Cultures. Vous serez appuyé dans votre adaptation aux réalités de votre nouveau milieu de vie. Veuillez contacter Autour du bébé au 514-667-0584, poste 5126, 667-0584, poste 5126.
Bonjour, ici Claude-Marie Landré. Tous les lundis de 1h30 à 2h, je vous invite à écouter l'émission Trame sonore qui parle de musique, de films, musique à l'image. Des entrevues, des découvertes musicales sont au rendez-vous. Ne manquez pas Trame sonore de 1h30 à 2h tous les lundis sur les ondes du 102,3 FM du Pur Plaisir.
Bonjour, ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à prendre une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h à Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Je vous parlerai d'horticulture, d'environnement et aussi de musique. Une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h.
Salsa,
reggae,
compa,
zouk,
lambada,
bossa nova,
fado,
hip hop,
ragamuffin,
mala,
tango,
samba,
merengue,
bachata,
jazz,
chansonnette française,
soukous,
rock francophone,
funk,
blues,
techno, toute la musique du monde
sur le 102.3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc voilà, donc nous allons passer au témoignage de François Ducanal, un militant qui fait partie de la coalition Justice pour Annès. Bonjour François, donc avant d'entendre votre témoignage, j'aimerais bien nous dire qui est François Ducanal.
Oui, ben bonjour. Moi, je suis un militant contre la brutalité policière et l'impunité. Ça fait au moins une dizaine d'années que je lutte contre les abus policiers à Montréal, particulièrement.
Mais spécialement juste pour les abus des autorités policières ou pour d'autres causes aussi?
Ben, aussi pour d'autres causes, mais je dirais peut-être mon principal engagement, c'est contre les abus policiers. Entre autres, je suis membre de la coalition Justice pour Annès.
OK. François, vous êtes militant depuis combien de temps et est-ce que l'action que vous menez, à votre avis, est nécessaire?
Ben évidemment, oui, sinon je le ferais pas. Je pense que dans notre société, malheureusement, bon, ce qui se dit une démocratie, il y a quand même un gros problème d'abus policiers, pas seulement de la brutalité, mais toutes sortes d'abus de pouvoir et des injustices qui sont impunies. Donc, je pense que oui, c'est très important que les gens s'engagent dans cette lutte-là pour avoir des changements.
François, peux-tu me dire maintenant, depuis la mort du jeune Annès, vous avez développé des rapports avec la famille Annès, j'imagine. Est-ce que cette mort, qui est selon vous toujours injuste, est-ce qu'elle vous a rapproché de la famille?
Tout à fait. En fait, je connaissais pas du tout la famille Bénis avant le tragique événement du 1er décembre 2005, quand Annès a été tué par un policier du SPVM. Donc, depuis maintenant 4 ans et demi, on est en contact avec la famille et maintenant on lutte avec eux au sein de la coalition Justice pour Annès. Donc oui, on s'est très rapprochés d'eux autres dans cette lutte.
Mais c'est excellent parce que quand même, c'est depuis, si je ne me trompe pas, depuis 4 ans et demi, vous avez toujours réclamé une enquête publique. Celle-ci n'a pas eu lieu jusqu'à présent. À votre avis, pourquoi? Est-ce qu'il y aura des chances pour une telle éventualité?
Ben, il faut dire que depuis le début de la famille et des organisations qui représentent la communauté musulmane et qui défendent les droits de la personne réclament avec la famille qu'il y ait une enquête publique pour que la famille puisse savoir qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la version policière qui prétend que Anas aurait attaqué des policiers sans aucune raison avec un couteau. Et donc le gouvernement était assez long avant de réagir. C'est juste au mois de juin 2008 que la coroner en chef du Québec a ordonné finalement la tenue d'une enquête publique du coroner. Et suite à ça, la fraternité des policiers et policières de Montréal n'ont pas attendu longtemps avant de contester cette enquête publique en cours. Donc ils ont fait une requête pour demander l'annulation de l'enquête publique avant même qu'elle commence, sous prétexte que pour eux, l'enquête est inutile, donc illégale.
C'est perdre de temps pour eux et c'est un gaspillage, c'est ça?
C'est ça qu'ils disent. Ouais. Mais on peut se demander, est-ce que c'est aux policiers de déterminer est-ce qu'on a besoin ou non d'une enquête publique quand la famille et une trentaine d'organisations qui représentent la société civile demandent cette enquête publique depuis longtemps?
Oui, mais François, ça me ramène vraiment à te poser cette question-là. Est-ce que vous pensez vraiment que Anas est mort injustement? Et qu'est-ce qui vous pousse à croire? Vous n'étiez pas témoin sur le lieu?
Non.
Et comment vous pouvez être certain de vous qu'il y avait une injustice dans le cas de Anas?
Ben, je pense que chaque fois qu'une personne est tuée par des policiers, on est en droit, comme citoyen qui, dans le fond, la police travaille normalement pour nous. C'est nous qu'on paye des taxes pour payer leurs uniformes et leurs armes qu'ils utilisent contre nous. Donc, on peut se demander, même si la version des policiers est vraie, qu'ils sont fait attaquer par un gars avec un couteau, bon, ils ont toutes sortes d'armes sur eux, pas seulement des revolvers, ils ont des techniques d'autodéfense. Est-ce qu'ils auraient pu faire autre chose que simplement tirer cette personne? Mais qu'est-ce qui nous pousse vraiment à douter de la version des policiers? C'est que depuis le début, ils refusent de répondre aux questions de la famille. Ils font tout pour cacher les preuves et jusqu'à maintenant, la fraternité conteste encore l'enquête publique. Alors, depuis le début, on demande s'ils n'ont rien à cacher. Pourquoi est-ce qu'ils font tout pour empêcher l'accès à la vérité?
Pourquoi ils ne lèvent pas le voile, tu veux dire?
C'est tout ça. Exactement.
C'est pas... Mais pour vous, c'est-à-dire le principal acteur qui empêche, si vous voulez, la tenue d'une enquête, pour vous, c'est la fraternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou il n'y a que la fraternité policière qui...
Bonne question. En fait, oui, il y a la fraternité des policiers, puis c'est pas vraiment étonnant qu'ils font ça parce que, bon, ils défendent soi-disant l'intérêt de leurs membres.
Moi, et donc, pas, si vous me permettez, François, c'est pour la fraternité policière, on défend le policier à tort ou à raison?
Ben, c'est pas mal ça que ça a l'air parce que dans chaque cas de bavure policière, la fraternité est toujours là pour défendre les policiers. Et ce qu'ils disent, c'est pas oui, peut-être les policiers ont mal agi, mais il faudrait je sais pas quoi. Ils ont tout le temps le même discours, c'est les policiers ont très bien fait leur travail, on n'a rien à leur reprocher, et ils parlent d'acharnement, ils disent que la famille Bénis fait une guérilla judiciaire et qu'ils devraient laisser tranquille les pauvres policiers. En fait, dans le discours de la fraternité, c'est comme si les policiers étaient eux-mêmes les victimes
oui,
des personnes qu'ils ont tuées.
Et pourtant, vraiment, quand on cherche vraiment dans le fond de tout ça, ce que la famille surtout et vous, comme coalition, votre coalition, cherchez vraiment de lever le voile. S'il y avait vraiment des preuves, pourquoi on ne les montre pas publiquement? Et
voilà.
Comme ça, le dossier va être fermé.
Mm-hmm. Et un autre acteur qui empêche la vérité de sortir dans ce dossier, c'est pas seulement les policiers, mais même la ville de Montréal. Parce que bon, la police fait partie de la ville de Montréal. Et donc, eux, au lieu de se ranger du côté des citoyens montréalais, ils se rangent du côté des policiers en demandant eux aussi que l'enquête publique soit annulée. Et ce qui est très contradictoire là-dedans, c'est qu'on est allé avec Najla, la sœur de Anas, la coalition.
Hein,
oui, on est allé à la commission de la sécurité publique de la ville de Montréal. On a demandé au maire est-ce qu'il était d'accord que la famille ait une enquête publique. Et le maire de Montréal, Tremblay, nous a dit « Je suis pour que la vérité soit faite le plus vite possible. »
De quelle manière?
Mais par la suite, son attaché de presse a dit « Non, finalement, ça ne veut pas dire que la ville est pour une enquête publique. » Et dans les faits, maître Pierre-Yves Boisvert, qui représente la ville de Montréal, lui, il argumente du côté de la fraternité contre l'enquête publique.
Mais François, c'est vrai, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a-t-il une différence entre la mort de Freddy Vignova et de Hannes Bélis?
Ben oui, il y a plusieurs différences, il y a aussi des ressemblances. Peut-être premièrement, une différence, c'est que dans la mort de Freddy, il y avait beaucoup de témoins qui étaient directement impliqués dans l'affaire. C'est arrivé, il était 7 heures le soir, un samedi, dans un parc, donc il y avait plein de gens qui jouaient au soccer à côté, il y a eu beaucoup de témoins. Et une grosse différence, c'est la réaction de la communauté qui, à Montréal-Nord, le lendemain, il y a eu une manifestation, ça a dégénéré en émeute, c'est une ampleur vraiment exceptionnelle. Et beaucoup de personnes considèrent que c'est à cause de non seulement de l'émeute, mais aussi des organisations comme la CRAP, Montréal-Nord République.
C'est la réaction des citoyens, c'est ça qui a fait pousser le gouvernement d'accepter une enquête publique?
Oui, tout à fait. Ça a mis beaucoup de pression sur le pouvoir. Et on dirait qu'ils ont comme fait un compromis quand ils ont annoncé, ironiquement, c'était le 1er décembre 2008, qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'accusation contre les policiers. Et en même temps, ils annonçaient la tenue de l'enquête publique. Comme pour acheter la paix sociale.
Jacques Dupuis, si je ne me trompe pas, il a même lui annoncé que cette enquête publique, elle est, c'est une inutilité, c'est-à-dire elle n'a aucune utilité, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, finalement, ça va toujours aboutir à la fin, que les policiers seront blanchis.
Il n'y aura pas d'accusation. Ouais. Ça, c'est ça qui est important de savoir. Quand les familles demandent justice et vérité, une enquête publique, ça n'a pas pour but de donner la justice. Voilà. Ça, il a déjà été décidé qu'il n'y aurait pas d'accusation contre les policiers. Le seul but, c'est de faire la vérité sur les circonstances de la mort de quelqu'un et de faire des recommandations pour une meilleure protection de la vie.
Mais pour Freddy, si je ne me trompe pas aussi, c'est vraiment tout ça, c'était fait dans le cadre pour un petit peu apaiser les esprits, hein, les calmer et tout.
Mmh,
hein,
oui, tout à fait.
Mais ça veut dire que dans le cas de Hannes, c'était pas chanceux, la réaction des citoyens, elle n'était pas assez forte ou quoi?
Ben, c'est malheureux qu'on ait rendu là, mais on dirait que les policiers ont tellement de pouvoir dans notre société, même face aux autorités, que ça prend vraiment beaucoup de pression populaire pour que les choses bougent. Vous voyez, pour Hannes, ça fait 4 ans et demi et on n'a toujours pas l'enquête publique qu'on réclame.
Oui, mais François, si je retourne un petit peu, vous permettez de retourner sur la scène du crime. La question, plutôt l'histoire de l'arme, hein, de l'arme du crime, le couteau. Est-ce qu'il y a-t-il des preuves comme quoi réellement Hannes y avait le couteau dans la main? Est-ce que cette projection de la scène qui était filmée, est-ce qu'ils ont... Vous avez pu voir qu'il y avait dans la main un couteau de Hannes?
Nous, on n'a jamais vu le couteau ni dans la main de Hannes ni ailleurs. En fait, c'est les policiers eux-mêmes qui disent que Hannes aurait eu un couteau en main. C'est un collègue des policiers qui aurait ramassé le couteau sur le trottoir à côté de Hannes. Mais les policiers de Québec qui ont fait l'enquête sur cet événement-là n'ont pas jugé important ou utile dans leur enquête d'analyser l'arme du crime. Donc, ils n'ont pas regardé les empreintes sur le couteau, ils n'ont pas regardé s'il y avait du sang, si c'était le sang du policier.
Ils l'ont attribué directement à Anna, c'est ça?
Voilà. Comme ça fait lien aussi avec l'affaire Villanueva, le policier, l'enquêteur de la SQ était venu dire « Ah, mais nous, les policiers, on est honnêtes ». Donc, même si la famille doutait de remettre en cause publiquement la version des policiers, ils n'ont pas jugé bon pour faire taire la controverse, de faire leur travail finalement d'enquête. C'est l'arme du crime, il me semble que c'est l'élément principal qu'ils auraient dû analyser. Donc, c'est une autre chose qui nous font douter de cette version. Pourquoi ils n'ont pas simplement fait les analyses de base?
Oui, parce que comme j'ai bien, peut-être je l'ai souligné, quelqu'un qui quitte un lieu de prière, j'imagine, le matin, et cette histoire de couteau, c'est quasiment contradictoire. Parce que moi, personnellement, j'ai de la difficulté à croire que quelqu'un qui quitte un lieu comme ça le matin il peut attaquer un policier sans aucune raison. Vous comprenez ça?
Tout à fait, ça ne fait pas de sens du tout. Même les policiers, ils n'amènent aucune raison pourquoi Anas les aurait attaqués. Eux, ils disent il marchait sur le trottoir et tout d'un coup, il a sauté sur un policier sans aucun motif.
Ouais.
Ce qui n'est pas du tout crédible. Il faut savoir que le matin où c'est arrivé, il y avait une opération policière de la SQ. Il y avait une perquisition, mais à côté de l'endroit où Anas priait.
Donc, elle ne visait pas Anas comme
ça. Ça n'avait aucun lien avec lui, sinon que c'était chez des Maghrébins, la perquisition.
Ouais.
Et donc, dans les journaux, ils disaient que l'unité antiterroriste de la SQ était là parce que c'était des fraudes, mais qu'ils disaient que c'était peut-être lié au terrorisme international. Il faut savoir, bon, en 2005, on était en plein milieu de l'islamophobie, la paranoïa face qui faisait croire que tous les musulmans sont des terroristes. Donc, avec ça en tête, on peut comprendre pourquoi des policiers, en voyant Anas qui portait la barbe, qui est les vêtements traditionnels musulmans, peut-être qu'ils ont eu peur, ils ont imaginé qu'ils avaient Ben Laden devant eux, ils ont mal réagi. Finalement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé parce que les policiers, ils ne veulent pas nous le dire. Et leur version n'est pas du tout crédible. Puis on sait déjà qu'il y a une témoin civile, au moins, qui aurait vu, contrairement à ce que les policiers disent, eux, ils disent que le policier était à terre et Anas allait se jeter sur lui. C'est pour ça qu'ils l'ont tiré. Mais cette témoin civile qui est citée dans la décision de la déontologie dit plutôt que Anas était par terre et le policier était debout quand il a tiré. Et c'est ça que le rapport d'autopsie montre, que les balles sont rentrées de haut en bas dans son thorax.
Donc c'est possible que toute cette question de couteau et toute cette attaque, elle n'est pas vraie, quoi.
Ben, ça n'a pas l'air vrai du tout. Et l'acharnement que les policiers font depuis le début pour nous empêcher d'avoir accès à la vérité, ça fait juste renforcer le doute sur la crédibilité de leur version.
Exactement. Donc c'est ça qui fait que les policiers ne veulent pas montrer ça publiquement, puisqu'ils ont ils ont déjà filmé la scène, si je ne me trompe pas.
Il y avait des caméras qui ont filmé la scène, mais malheureusement, d'après ce qu'ils ont montré à la famille dans le cadre de leur plainte criminelle privée,
oui,
qui a été rejetée, on voit la scène avant et après, mais oui, on ne voit pas l'incident comme tel. Donc,
au moment
ça
de l'attaque,
ou...
et... ah, c'est ça. C'est quand
alors, c'est très bizarre qu'on n'a pas le moment crucial dans la vidéo, mais ça, c'est une question de plus, c'est une raison de plus pourquoi on devrait avoir une enquête publique.
Mais dis-moi, François, maintenant, le 7 janvier 2006, le père de Anas avait souligné publiquement, lors de la manifestation qui réclamait une enquête publique autour de cet événement tragique, qu'il faisait confiance à la justice. Pensez-vous qu'il garde toujours la même opinion?
Malheureusement, non. Et c'est vrai que depuis le début de l'affaire, la famille demande au public de rester calme, de faire confiance et de prendre les choses en patience. Mais finalement, maintenant, surtout avec les actions en cours de la fraternité pour empêcher l'enquête publique, la famille et le père d'Anas, entre autres, ont dit qu'ils ont l'impression qu'on rit d'eux, finalement. Eux, ils ont accepté de suivre toutes les étapes que le système offrait. Et finalement, ils se retrouvent 4 ans et demi plus tard avec toujours aucune réponse à leurs questions.
Merci François. Peut-être finalement, je peux vous poser cette question-là. Votre engagement dans cette voie de rétablir une justice qui, à mon sens, elle est des fois presque impossible, venir en aide à des victimes semblables que Fridi ou d'autres, Anas, pouvez-vous me dire ou dire à nos auditeurs qu'est-ce qui vous pousse réellement à consacrer autant de temps à titre bénévole de militer afin que la justice reprenne le dessus?
Bonne question. Et c'est sûr que moi-même, j'ai été témoin et des fois victime de répression et d'abus policiers dans des manifestations. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose d'extérieur à moi. C'est une cause qui me tient à cœur parce que je suis directement touché. Mais même à ça, je pense que toutes les personnes dans notre société devraient se sentir concernées, même s'ils sont pas eux-mêmes victimes, parce que c'est en notre nom, finalement, que la police dise qu'ils sont censés de nous servir et nous protéger. Mais quand on voit qu'ils tuent des gens et qu'ils se protègent entre eux pour éviter de rendre des comptes, il faut que tout le monde se mobilise dans cette cause-là pour qu'on change les choses, parce que les policiers ont beaucoup de pouvoir. Donc ça va prendre beaucoup de pression du public pour
François,
que ça change.
François, vous êtes toujours jeune, vous êtes encore jeune. En deux mots, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes québécoises et québécois dans cette voie-là?
Bon, allez, Ben, je pense que les jeunes ont beaucoup été touchés par la mort de Freddy, vu qu'il c'est un jeune de 18 ans. Beaucoup des jeunes du quartier le connaissaient, mais je pense que n'importe quel jeune, au moins à Montréal, peut-être même ailleurs au Québec, peut se sentir concerné par cette cause-là. Et c'est sûr que il n'y a pas d'âge pour s'impliquer dans cette cause, mais je pense que les jeunes y auront intérêt de se mobiliser aussi pour que les choses changent, parce que comme on voit que les choses vont pour le moment, on dirait qu'il y a toujours plus de policiers, la répression augmente, mais donc il faut le plus de monde possible pour s'impliquer dans cette lutte.
Donc, vous conseillez les jeunes de suivre l'exemple, si j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est sûr que on montre un peu le chemin et on voit même dans les manifestations qu'il y a eu dernièrement à Montréal-Nord, beaucoup de jeunes du quartier se joignent à nous quand on passe dans les rues du quartier. Donc, ça montre que ça les rejoint, puis c'est leur lutte aussi.
François Ducanal, un grand merci. Merci beaucoup de notre part.
Ça fait plaisir.